Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. En RDC, 50 détenus se sont évadés de la prison de Kamituga à 150 km au sud de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu dans l'est du pays. Ils ont profité d'un incendie dans le voisinage pour prendre le large dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé aujourd'hui Désiré Kubuya Masumbuko, administrateur du territoire de Mwenga, où se trouve Kamituga. Les 50 évadés sont encore en cavale, y compris 2 condamnés pour meurtre et 18 pour viol. Cité riche en or, Kamituga est la capitale économique du territoire de Mwenga, où l'État peine à s'imposer aux groupes armés. Présidentiel en RCA, le secrétaire d'État américain John Kerry félicite les Centrafricains dans un communiqué aujourd'hui pour le scrutin réussi du 30 décembre. Deux anciens premiers ministres, Anicet Georges Dologele et Faustin Archange Touadéra, sont arrivés en tête au premier tour selon les résultats provisoires annoncés par l'Autorité nationale des élections. Dologele, patron de l'URCA, qui a recueilli 23% des suffrages, compte nouer des partenariats pour un second tour. On l'écoute.
Oui, bien sûr, on ne peut pas aller à un deuxième tour dans un système où on a eu 30 compétiteurs sans nécessairement avoir un partenariat avec certains d'entre eux, hein, sinon la totalité si possible. Parce que vous savez, demain, ce qui va se passer en Centrafrique, on aura besoin de beaucoup d'hommes de qualité pour résoudre les nombreux problèmes du pays. Donc chaque homme politique qui peut apporter quelque chose d'intéressant.
Son principal rival, le candidat indépendant Faustin Archange Touadéra, a recueilli, lui, 19,42% des voix. Il affirme ne pas manquer d'atouts pour l'emporter au second tour.
Mais bien de raison. Comme vous le savez, moi, j'ai été Premier ministre dans un passé très, très récent, pendant 5 ans. Donc, il y a eu du travail qui a été fait, j'ai un bilan. Donc ça, c'est un élément important. Et deuxièmement, j'ai un projet de société. Un projet de société où je propose une vision aux Centrafricains. Si on regarde bien ce projet de société, il y a des priorités. La première priorité, selon notre point de vue, c'est la paix et la réconciliation nationale. Une fois élu, il nous faut prendre des dispositions pour que la paix véritable revienne et la réconciliation nationale, qui est la cohésion sociale.
Les deux finalistes s'affronteront le 31 janvier au second tour des présidentielles si les résultats provisoires sont validés par la Cour constitutionnelle. Au Burundi, le verdict au procès des putschistes des 13 et 14 mai 2015 sera prononcé le 14 janvier prochain. Entre-temps, la défense continue de présenter des arguments pour prouver que le procès n'a pas été équitable. C'est le cas de maître Fabien Segatoa, l'un des avocats des prévenus.
Il n'appartient pas au prévenu de prouver son innocence. Il appartient au ministère public de prouver la culpabilité par des éléments de preuve produits dans le dossier ou alors par des témoins, parce que les témoins sont également des éléments de preuve. Mais ce qui est prévu par la loi, c'est que tous ces éléments de preuve doivent être produits à l'audience et combattus contradictoirement à l'audience, parce que le prévenu a le droit de s'opposer à ce qu'un témoin dit à l'audience et il doit le dire à l'audience.
Maître Fabien Segatoa, l'un des avocats des prévenus au procès des putschistes du Burundi. À Djibouti, dans la Corne de l'Afrique, plusieurs membres de l'opposition et le président de la Ligue des droits de l'homme sont toujours aux arrêts depuis le 21 décembre. Le président Ismaïl Omar Guelleh brigue un quatrième mandat dans les élections qui sont prévues dans 3 mois. Coup de projecteur sur la situation politique à Djibouti avec Mohamed Chouki, analyste djiboutien basé à Houston au Texas.
Le problème à Djibouti, depuis la cession du pays à l'indépendance, nous n'avons pas une culture politique. À Djibouti, c'est le néant total. C'est une seule radio, une télévision et un journal que le pouvoir contrôle. Pendant ces années-là, il y a une culture politique qui a complètement disparu à Djibouti. Nous arrivons depuis 1977, rien. Et avec l'USN, depuis 3 ans, il y a une renaissance politique à Djibouti. C'est vrai, comme vous dites, il y a une opposition alimentaire, il y a des hommes qui gravitent autour du pouvoir pour des gains personnels. Ce sont ces gens-là que le président Ismaïl Omar Guelleh veut avoir en face de lui. Il ne veut pas un candidat sérieux de l'opposition. Et l'USN est fragmenté. Il y a 3 ou 4 personnes qui veulent se présenter à la présidence, ce qui est légitime. Mais pour le moment, c'est un apprentissage démocratique. L'USN est venue depuis 3 ans sur le paysage politique djiboutien. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il y a un dynamisme, il y a des gens qui ressortent de leur sommeil et qui veulent se battre contre ce régime-là. On veut changer.
Mohamed Chokhi, analyste djiboutien basé à Houston au Texas, ici aux États-Unis. Et puis au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a entériné la nomination de 50 députés issus de la rébellion et accepté un partage des postes ministériels conformément à l'accord de paix signé fin août 2015 pour mettre fin à 2 ans de guerre civile. Le camp du président désignera 16 ministres, y compris ceux des finances, de la défense et de la justice. Le camp rival de l'ex-vice-président Riek Machar aura droit pour sa part à 10 portefeuilles, dont ceux du pétrole et de l'intérieur. 4 autres postes ministériels seront réservés à des groupes moins importants.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, enlèvement d'une ressortissante suisse à Tombouctou dans la nuit de jeudi à vendredi. Béatrice Stockley vit depuis plusieurs années dans cette ville du nord-ouest du pays. Elle avait déjà été kidnappée en avril 2012 par des islamistes avant d'être libérée peu après grâce à une médiation du Burkina Faso. Pas de revendication jusqu'à présent concernant son nouvel enlèvement, un enlèvement confirmé par la Suisse. Rappelons que le nord du Mali était tombé en mars et avril 2012 sous la coupe des mouvements djihadistes liés à Al-Qaïda, dont en sardine du Touareg malien Iyad Agali, qui contrôlait Tombouctou lors du premier enlèvement de Béatrice Stockley. Les islamistes ont été chassés du nord malien à partir de janvier 2013 grâce à l'intervention militaire française et internationale qui continue actuellement. Au Burkina Faso, le tout nouveau Premier ministre Paul Kabatieba entend baser son action sur la jeunesse, fer de lance de l'insurrection anti-Blaise Compaoré en 2014, qui a bravé les putschistes du coup d'État manqué de 2015. M. Tieba s'est exprimé pour la première fois hier lors d'une conférence de presse à Ouagadougou.
Les jeunes de ce pays-là ont pris la responsabilité de marcher dans la rue, de braver les armes, de braver la mort pour mettre fin à ce régime-là. Les jeunes de ce pays se sont également battus pour lutter contre la tentative de récupération donc, du pouvoir à travers le coup d'État manqué. Ce courage de la jeunesse, cette clairvoyance de la jeunesse, cette détermination de notre jeunesse nous interpelle. Elle montre que nous sommes, si nous le voulons, à mesure de prendre notre destin en main et de construire un avenir. Et donc le souvenir des martyrs qui sont tombés lors de ces deux événements, à savoir les événements de l'insurrection du 30 octobre 2014 et la résistance farouche que la jeunesse a eu à manifester à la tentative de coup d'État de septembre 2015, démontre à souhait que la jeunesse burkinabé aujourd'hui est mature. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de changement. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de démocratie. Elle a besoin de progrès économique et social qui sont à la hauteur des sacrifices consentis. Je pense que la politique que le chef de l'État va impulser sera en mesure de répondre aux attentes de la population, de répondre aux attentes des jeunes en termes d'emploi, en termes de démocratie, en termes de progrès social.
Paul Kabatieba, Premier ministre du Burkina Faso. Afrique du Nord maintenant, conflit en Libye, l'ONU et les Européens se mobilisent pour tenter d'accélérer la mise en place d'un gouvernement d'union nationale dans le pays. La communauté internationale est préoccupée par l'influence grandissante du groupe État islamique et la multiplication des attentats en Libye. John Lyndon.
La communauté internationale s'inquiète de la persistance du vide politique en Libye, divisé entre deux pouvoirs rivaux et de nombreuses factions et milices. Un accord prévoyant un gouvernement d'union a été signé sous l'égide de l'ONU le 17 décembre par des membres des deux parlements. Il doit être entériné le 17 janvier, mais les obstacles demeurent, notamment convaincre les durs de chaque camp. Il y a urgence au lendemain de l'attentat le plus meurtrier depuis la fin du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Plus de 50 personnes ont été tuées jeudi lorsqu'un kamikaze a fait exploser un camion-citerne dans le centre de formation de la police à Slidan, à 170 km à l'est de Tripoli. Cet attentat a été condamné par la communauté internationale qui, plus que jamais, appelle les Libyens à l'unité pour combattre le terrorisme.
Et pour terminer, au moins 140 personnes ont été tuées en Éthiopie ces deux derniers mois au cours de la brutale répression de manifestations gouvernementales, antigouvernementales, déclenchées par des craintes d'expropriation liées à un projet d'agrandissement de la capitale Addis Abeba. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York. Ce nouveau bilan est pratiquement le double de celui de 75 morts donné le 19 décembre par Human Rights Watch. Le gouvernement éthiopien, pour sa part, parle d'un bilan officiel de 5 morts. Il n'a pas encore réagi à la déclaration d'Human Rights Watch. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.